À la une des journaux, Frédéric Couteau, la lutte contre le réchauffement qui passe par nos assiettes.
Et oui, c'est le constat établi par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dans son dernier rapport. Pour l'instant, rapporte le Figaro, l'agriculture parvient à nourrir toute l'humanité, même si 820 millions de personnes souffrent de malnutrition, 2 milliards d'autres sont en surpoids. Hélas, la superficie des terres dégradées risque de continuer à s'étendre, poursuit le journal, et les forêts, l'un des poumons de la planète, devraient être moins efficaces à remplir leur rôle de puits de carbone. Toujours selon ce rapport du GIEC, poursuit le Figaro, le réchauffement climatique provoque déjà une désertification accrue dans les zones arides. La population affectée atteint environ 500 millions de personnes. De plus, 70% des terres émergées, libres de glace, sont déjà exploitées par l'homme, notamment pour l'agriculture, culture et élevage. Un tiers du total. Dans ce contexte, préconise le GIEC, il faudrait repenser les modes d'alimentation avec moins de produits animaux, viande, laitage et poissons consommés dans les pays riches.
Alors est-ce que ça passe par nos assiettes? Non, ça commence dans l'assiette, s'exclame Libération.
Oui, l'alimentation est au cœur de la lutte contre le changement climatique car elle est à la fois une des principales causes et en subit durement les conséquences, pointe Libération. Le secteur agricole représente environ 30% des émissions de gaz à effet de serre et occupe 40% des terres. En parallèle, chaque degré de réchauffement réduira de 6% les rendements de blé, de 3% ceux de riz et de soja, et de 7% ceux de maïs. Or, ces cultures fournissent les deux tiers des apports en calories de l'humanité, ainsi que les salaires de millions d'individus.
Résultat, relève Libération, il va falloir transformer de façon profonde l'agriculture et l'alimentation.
Oui, car, commente le journal, plus le temps passe, plus les rapports alarmistes s'accumulent, plus l'on réalise que notre avenir dépend d'un véritable changement de société à engager dès à présent. Il ne s'agit pas seulement de prendre le vélo au lieu de la voiture ou le train à la place de l'avion, mais de repenser notre vie quotidienne dans laquelle l'alimentation a une place prépondérante, privilégier les circuits courts, favoriser les légumineuses et les fruits ou légumes du moment, en gros se réaccorder aux saisons et à notre environnement proche, ce qui ne peut pas nous faire de mal.
Autre conséquence visible du réchauffement climatique, la montagne ne tient plus debout, constate la Croix.
Exemple, dans le massif du Mont Blanc, les écroulements rocheux se multiplient en haute montagne. La montagne se fissure, s'effrite. Même les blocs rocheux en granit, matériaux pourtant solides, s'écroulent en dizaines ou en centaines de milliers de mètres cubes. Se lamente un habitant du massif. La cause de ces écroulements est bien la fonte du permafrost sous l'action du réchauffement climatique, répond la Croix. Le permafrost, c'est un sol dont la température se maintient durablement en dessous de 0 degré, si bien qu'il joue un rôle de véritable ciment naturel entre les différents pans rocheux. En fait, précise la Croix, l'intérieur de la montagne se réchauffe de 0,15 degrés par an, soit 1 degré et demi chaque décennie, ce qui est énorme, une élévation de température plus rapide que dans l'air, que ce qu'on ne sait pas encore expliquer.
Alors, face à ces risques, les aménageurs surveillent de près les refuges et les gares de téléphériques au perché.
Oui, les quelques 947 éléments d'infrastructure du massif du Mont Blanc, dont 74% sont des pylônes de remontée mécanique implantés sur du permafrost, sont tous sculptés et leur ancrage est renforcé si nécessaire. De leur côté, les guides de haute montagne adaptent leurs pratiques. Désormais, la saison d'alpinisme commence plus tôt, en juin-juillet, plutôt qu'en juillet-août, afin d'éviter les chutes de pierres.
Pas très optimiste non plus ce constat établi par le World Resource Institute à propos des ressources en eau de la planète.
Oui, un quart de la population mondiale frôle la pénurie d'eau, s'exclame le républicain Lorrain. 17 pays se rapprochent ainsi dangereusement du jour zéro de la mise au régime sec. L'Inde, par exemple, essuie une crise si aiguë que 21 de ses villes devraient épuiser leurs réserves souterraines d'ici 2020. Comme pour le dérèglement climatique ou les atteintes à la biodiversité, l'homme fait figure de principal responsable, dilapidant la ressource plutôt cigale que fourmi. On revient à la Croix qui relève que la France se situe en milieu de classement avec un stress hydrique moyen. Mais les 81 départements récemment concernés par des restrictions dans l'usage de l'eau viennent rappeler que la situation hydrique en France est préoccupante. Même chez nous, s'exclame la Croix, l'eau est rare et l'expérience de cette rareté peut être un stimulant pour imaginer un style de vie moins gourmand en eau. L'agriculture, l'industrie, l'urbanisme, le traitement des eaux usées sont concernés au premier chef. Mais, conclut la Croix, c'est aussi toute une culture façonnée par l'imaginaire d'une eau du robinet toujours disponible et abondante qu'il faut travailler pour faire découvrir combien l'eau, si utile, est un bien précieux.
Mais tout de même, une une note d'espoir. Pour sauver la planète, plantons des arbres.
Oui, c'est ce que préconise une équipe de chercheurs de l'université de Zurich, pointe le Parisien. D'après leurs calculs, il y aurait suffisamment de place sur Terre pour planter des arbres capables d'absorber les deux tiers du carbone présent dans l'atmosphère. Précisément, 900 millions d'hectares de couverture arborée supplémentaire suffiraient. Les gouvernements doivent prendre ceci en compte dans leur stratégie nationale contre le changement climatique, estiment les chercheurs. Certains d'ailleurs ont déjà pris les devants, relève la Croix, à l'image de l'Éthiopie qui a réalisé le 30 juillet dernier la plantation de 353 millions d'arbres en seulement 12 heures.
La revue de presse avec Frédéric Couteau, on la retrouvera sur RFI.fr. Il est 8h25 à Paris.